Un mot, puis l'autre, puis un troisième qui font des phrases, qui font des histoires, des sensations ou des images. Un mot, puis l'autre, murmuré, proféré, déclamé, scandé, chanté, des mots doux dits, dis donc.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Avec un drôle de nom, elle chante, révélée aux Victoires de la musique dans la catégorie révélation féminine, Clou fait parler d'elle aujourd'hui parce qu'elle écrit aussi, enfin plus que des chansons ou autre chose que des chansons, un recueil de poésie joliment nommé Doux mots dits. Bonjour Clou.
Bonjour Pascal.
Avec vous, on est tout de suite dans le jeu de mots et les assonances. Les mots sont doux. Ils sont dits, mais est-ce qu'ils sont maudits?
J'espère pas. Non. Maudits, non.
Jamais.
Si, peut-être. Oh là, vous me demandez de réfléchir avant de répondre. En tout cas, ce que j'ai voulu dire avec ce livre et ce que j'ai toujours ressenti très très fort, c'est que les mots avaient leur importance, qu'ils soient dits ou tus. Et maudit, je trouve que c'est un mot extrêmement fort. Mais c'est vrai que un mot peut vous poursuivre toute votre vie. Un mot mal placé ou un compliment qu'on vous fait, il peut être très positif, mais aussi des critiques. Donc peut-être que oui, peut-être qu'un mot peut être maudit. Ouais.
Mais les maudits mots tuent, c'est un des chapitres de votre recueil.
Ouais.
Donc c'est dangereux, un mot maudit.
Mais je pense que oui, ça peut être dangereux. Je pense que ça marque, enfin en tout cas, le poids des mots et la violence qu'il peut y avoir dans un mot, ça peut vous faire des bleus invisibles que vous gardez toute la vie. Et qui sont pas donc invisibles, donc qui sont pas forcément repérables par votre entourage ou par les gens qui vous aiment. Donc oui, un mot, ça peut être lourd.
J'ai envie de continuer à jouer avec vous, Clou. Les doux mots sont-ils les mêmes que les mots doux?
Ah oui, je pense que ce sont les mêmes.
Mais est-ce que vous aimez les mots doux? C'est quoi votre mot?
J'adore les mots doux. Ouais.
C'est vrai. C'est quoi votre mot doudou?
Vous allez vous moquer, mais je crois que la phrase que je préfère. C'est une phrase complète, c'est « muscle ton jeu, Robert ».
Je suis pas sûr d'avoir bien entendu. « Muscle ton... » »«
Muscle ton jeu, Robert ». Vous connaissez Aimé Jacquet?
Oui.
Vous avez vécu la Coupe du Monde 98?
Oui, un peu de loin.
De loin.
Je devais lire Duras en même temps.
Mais c'est très littéraire, cette Coupe du Monde. Parce que Aimé Jacquet... Alors moi, je suis pas du tout au football. Mais je trouvais qu'Aimé Jacquet avait des envolées lyriques extraordinaires. Et j'ai eu une période dans ma vie où je devais décider si je faisais de la musique ou si je continuais un autre métier. Et j'étais avec un amoureux incroyable qui était fou de football et qui imitait Aimé Jacquet à la perfection et qui me disait, pour m'encourager, et c'était donc des mots doux, il me disait « muscle ton jeu, Robert », avec l'accent d'Aimé Jacquet, que je ne vais pas faire car je n'ai pas de don d'imitation. Et donc ça a toujours été un mot doux pour moi. Oui, les mots doux ne sont pas toujours des mots classiques.
Oui, et pas forcément niaiseux, parce qu'un mot doux, ça peut être un peu bof.
C'est marrant, c'est comme le mot gentil. Le mot doux, c'est souvent synonyme de niais ou de mielleux. Je ne suis pas d'accord, je pense que la douceur, c'est quelque chose qui peut être très beau et au contraire très fort.
Et avant cet amoureux, Clou, est-ce qu'il y avait d'autres mots de l'enfance, de l'adolescence, puisque ce recueil de poésie se veut un voyage au cœur de votre adolescence qui vous a marqué?
Est-ce qu'il y a eu d'autres mots? Vous voulez dire avant tout ça? Bien sûr, plein, beaucoup, énormément, partout, surtout à la maison. Et des mots qui m'ont... Enfin, je trouve que les mots, quand j'étais petite, m'ont beaucoup abîmée et pas beaucoup portée. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu quand je suis entrée en thérapie. Et puis, et les mots m'ont construit après, parce que j'ai beaucoup écrit... J'étais très, très solitaire comme enfant, et donc j'avais des journaux intimes... qui s'accumulaient, hein, comme Picsou accumule ses pièces, moi j'accumulais des carnets. Et donc les mots m'ont toujours accompagnée et ont toujours été des compagnons de solitude.
Votre nom Clou vient de cette période, vous dodelinez de la tête.
Oui, mon nom, c'est vrai qu'il est étrange. Mais oui,
il est étrange, on est d'accord.
Bien sûr. Mais vous le retenez, c'est ça le plus important.
Mais pourquoi Clou? Parce que le clou du spectacle?
J'aimerais bien que ce soit ça, mais c'est pas ça l'explication. Non, je m'appelle Anne-Claire Et je faisais le clown quand j'étais petite parce que je crois que je n'osais pas m'exprimer normalement et donc j'avais pas droit au chapitre non plus. Et le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de faire des plaisanteries. Et ça marchait plutôt bien. Et ça me permettait d'être insolente sans l'être, donc de faire passer des messages. Et ça désarmait aussi. Je trouvais que l'humour était désarmant très souvent. Donc on m'a appelée Anne Clown, puis Clou, puis c'est resté.
Mais dans la musique, je crois que pour parler d'un mauvais batteur, on dit il enfonce des clous.
C'est vrai?
Oui.
Ah, je sais pas, je connais pas de mauvais batteur. Je travaille que avec des très bons batteurs.
Mais c'est votre nom dans la vie quotidienne ou c'est votre nom de scène et que vos agents vous ont dit il faut trouver un nom qui marque et vous êtes dit ça va être Clou?
Non, je pense que sinon mes agents ils seraient partis en courant avec ce genre de conseils. Non, je suis arrivée avec ça parce que c'était mon surnom d'enfance. C'est mon surnom. Tous mes amis m'appellent Clou. Et quand j'ai commencé la musique, je me voyais pas m'appeler Anne-Claire. Ça me semblait. Bizarre, ça me semblait pas proche de moi. Et Clou, c'était un petit peu anonyme aussi, donc ça me protégeait pas mal. Et voilà, et je réponds presque plus vite quand on m'appelle Clou que quand on m'appelle Anne-Claire. Donc tout le monde m'appelle Clou, même les gens avec qui je travaille.
Il est vrai, Clou, que dans la musique aujourd'hui, les autrices, compositrices, interprètes peuvent avoir des noms un peu étranges. Bon, on sait que Sheila, c'est jamais appelé Sheila, mais quand je vois Cœur de pirate, Vendredi sur mer, Refuge, Silly Boy Blue, c'est quand même des noms improbables. Qu'est-ce qui dicte ça, le désir d'être original?
Je crois pas. Je crois que c'est peut-être quand on se donne un nouveau nom, on accepte aussi une nouvelle identité. Et c'est vrai que quand on fait de la scène, quand on a un métier comme ça où on est en représentation, on a besoin un petit peu de se décaler par rapport à sa vraie personnalité pour se protéger et aussi parce qu'on est en représentation. Donc il faut donner à voir, il faut présenter quelque chose d'intéressant. Et donc c'est une manière de dire c'est parti, vous allez voir quelque chose que j'ai préparé. C'est pas juste moi dans ma chambre qui fais mes chansons. Je pense que c'est ça. Et après, peut-être que c'est une quête d'originalité, je ne sais pas. J'espère pas.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Doux mots dits, nous allons parler de votre recueil de poésie, Clou. Mais avant de parler de poésie, de chansons aussi, place au théâtre avec un ailleurs à l'étranger. Ailleurs en Turquie, dans le pays du grand Mamamouchi. Bonjour Vincent Brousse.
Bonjour Pascal.
Vous êtes attaché de coopération pour le français au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Turquie. Et les 400 ans de Molière ne vous ont pas échappé.
En effet, l'Institut français de Turquie et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade se sont emparés de ces 400 ans de la naissance de Molière en organisant différentes collaborations, mais aussi des événements à destination des publics universitaires, du grand public aussi, mais aussi des scolaires ou encore des étudiants.
Mais alors comment est lu ou perçu Molière? Est-ce que c'est l'auteur phare ou c'est un inconnu en Turquie?
Alors, c'est clairement un des auteurs phares. Alors bien sûr, en Turquie rayonne aussi Pierre Loti, qui a eu une longue vie en Turquie, dont on célébrera d'ailleurs l'année Pierre Loti l'année prochaine, ou encore Proust. Mais Molière a une place importante et pour nous, c'est une vraie opportunité pédagogique parce que Molière parle à toutes et à tous, aux petits et aux grands.
Mais pour quelle raison?
Eh bien, un côté accessible, la figure aussi peut-être du Turc qui revient dans différentes pièces. Dans Le bourgeois gentilhomme, on retrouve le fils du grand Turc. Dans Les fourberies de Scapin, Léandre prétend avoir été capturé par les Turcs. Et donc, il y a aussi ce jeu sur les références de chaque pays.
Et puis, il y a Tartuffe, qui est une pièce que vous mettez à l'honneur dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'elle a une place particulière dans le contexte politique et religieux de la Turquie? Parce qu'elle est souvent interpréter cette pièce comme une comédie contre l'intégrisme religieux.
Alors il y a sûrement des partis pris, d'ailleurs il y a différents, en amont de cette lecture de Tartuffe, par les trois comédiens turcs, il y a différentes explications, leur rapport à cette pièce, comment ils la conçoivent, donc je vous invite vraiment à découvrir ça. L'intérêt typiquement là c'était un projet grand public, qui était lié aussi à des projections de films et de pièces de Molière par l'Institut, avec des interventions de comédiens turcs, mais francophones.
Et puis il y a un colloque, alors là c'est pour les universitaires, le 10 et 11 mai.
Tout à fait. Sur le volet public universitaire, un colloque le 10 et 11 mai à l'Université d'Istanbul, soutenu par l'Institut français, et aussi une revue, Synergie Turquie 2022, le numéro 15, qui lui traitera justement de Molière 400 ans après.
Alors il faut préciser, Vincent Brousse, que les liens entre l'Université Galatasaray et les universités françaises est très fort, et ce lien n'a pas attendu les 400 ans de la naissance de Molière.
Non, ce lien est très fort. On va fêter justement cette année les 30 ans de l'accord bilatéral pour la création de Galatasaray. C'est un grand moment. Et justement, là aussi, les étudiants de Galatasaray se sont emparés de Molière, ont rendu hommage à Molière lors d'un concours organisé par la Comédie française. Et nous sommes très heureux d'annoncer qu'ils ont justement gagné ce concours, qu'ils ont remporté le prix spécial de la francophonie remis par la Comédie française et le ministère de l'Éducation nationale.
Eh bien, cocorico, même si c'est pas un mot de Molière. Merci beaucoup Vincent Brousse. Toutes ces infos sont bien sûr à retrouver sur le site de l'Institut français de Turquie.
T'en sais rien, oh t'en sais rien, jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh t'en sais rien, tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint, le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tu en joues. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va. Rien ne se voit. Tout va. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on. Jusqu'ici tout va bien.
Clou sur RFI, jusqu'ici tout va bien, extrait de votre album Orage qui vous a valu votre nomination aux Victoires de la musique. Unique album à ce jour, mais j'imagine que vous travaillez à la suite.
Tout à fait.
Bientôt.
oui, je suis en...
Je ne dis rien.
Je suis en pleine écriture et composition.
Oh,
vous voyez comme c'est beau.
Refaites-le-moi.
Oh là là. Non mais c'est la vérité, c'est la vérité.
Alors en attendant, vous publiez un recueil de poèmes en vers libre, intitulé « Doux maudit », et vous n'échapperez pas à la lecture tout à l'heure, mais racontez-moi la genèse de ce livre dont on pourrait penser qu'il est écrit par une très jeune fille, parce qu'il est écrit au présent.
Oui, tout à fait. C'est drôle parce que j'ai même des amis qui m'ont demandé si j'avais pas été chercher des poèmes que j'avais écrits quand j'avais 14 ans.
On peut y penser ?
On peut y penser, mais ça me fait très plaisir. Mais non, je les ai écrits l'année dernière. J'avais pas du tout 14 ans.
Mais j'ai dans quel état d'esprit ? Enfin, vous avez revécu vos 14 ans ?
Un petit peu, ouais. Ouais. Je me suis replongée dans des journaux, donc j'ai gardé pas mal de journaux intimes. Et je me suis rendu compte, en commençant à travailler sur le recueil, que tout était encore très vif. Je me souviens vraiment de manière assez intense de toute cette période fin collège, début lycée, parce que c'était des moments assez charnières pour moi. C'était mon premier amoureux. C'était les moments où je me rendais vraiment compte qu'il y avait, une vraie violence à l'intérieur de ma famille. Avant, je vous avoue que je le voyais pas. Je le voyais que quand j'allais chez mes copines. Je voyais qu'il y avait une différence. Et puis c'est là que j'ai vraiment découvert que je savais ou que j'aimais écrire des chansons. Donc c'est une période de très, très forte encore. Et j'ai pas fait beaucoup de... Ça n'a pas été très compliqué en tout cas de me remémorer tout ça.
Alors il y a la sœur rebelle, ouais. En tout cas qui a du caractère, la copine Aurélie en Doc Martin, les parents, le premier baiser, Nathan, l'amoureux, celui qui dit ses mots doux. Il y a les puces de Clignancourt, il y a le métro. Et il y a aussi cette notation où vous semblez, vous rêvez, grande écrivaine.
Mm-hmm. C'est vrai. Non mais c'est absolument authentique. J'ai toujours rêvé de ça, mais je crois que c'est quelque chose... On est nombreux, enfants solitaires, à rêver d'être écrivain. Moi je rêvais de ça. J'étais fascinée par les romans de Jack London, j'étais fascinée par un roman qui s'appelle L'île au trésor de Stevenson, et je me disais que mon rêve c'était d'écrire des romans d'aventure, et que ce serait ça ma vie. Et très vite je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un métier, et que ça pouvait le devenir, mais qu'en tout cas ça se faisait pas comme ça. Et j'ai toujours écrit, j'ai écrit des romans, j'étais hyper jeune, j'ai écrit une histoire de pirate, absolument nulle. J'ai écrit
Comment
une histoire de sorcière que j'ai complètement piquée à Roald Dahl. Voilà.
Et vous avez tout gardé?
Parce que j'ai relu. Ah oui, j'ai tout gardé, ouais. Ah ouais. Parce que l'écriture est adorable, parce que c'est drôle, c'est très très drôle.
Alors ce livre de poésie en vers libre est une série de courts poèmes qui racontent donc des scènes de votre adolescence et de votre quotidien. Et il y a un poème qui m'a particulièrement touché. Alors il est très court, mais je trouve qu'il dit en quelques phrases ce que peut être l'adolescence. Et ça s'appelle L'existence.
L'existence. La professeure de français, derrière ses lunettes fumées, a lancé à la classe entière, sur un ton désabusé, « Vous conjuguerez les verbes aimer et mourir à l'imparfait du subjonctif, dans l'ordre que vous voulez, selon la manière dont vous concevez l'existence. » Ça, c'est une vraie anecdote.
Mais alors, est-ce que vous savez l'imparfait du subjonctif de aimer ?
Alors, aimas ?
Que j'aimasse.
Que j'aimasse ?
Oui.
Ah, je l'ai fait juste après.
Que tu aimasses.
Que tu aimasses.
Qu'il aima.
Oui.
Chaque poème, donc, est une histoire. Elles sont très vives, vraiment, ces histoires, ou vous les avez un peu arrangées ?
Non, tout est vrai. Il y a des choses que j'ai romancées parce que j'avais pas forcément envie de raconter la vérité. Mais il y en a très peu, tout est quand même très très proche de ma peau et de ce que j'ai pu vivre. Et puis il y a des choses qui se sont un peu étalées dans le temps. Donc tout s'est pas forcément passé autour de mes 15-16 ans. Il y a des choses qui sont arrivées un peu plus tard. Le départ de ma mère, c'était un peu plus tard. Le départ de ma sœur, c'était aussi un peu plus tard. Premier baiser, c'était un peu plus tôt. Donc ouais, j'ai condensé.
Mais ces deux choses, aimer, mourir, ouais. C'est les deux grandes questions de l'adolescence. Qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce que mourir? Est-ce que j'ai envie de mourir avant d'aimer, après avoir aimé? Est-ce qu'on peut mourir d'aimer?
C'est vrai, c'est un peu c'est le combat de Héros et Thanatos. Et c'était vraiment c'est la jeune fille et la mort. C'est marrant parce que j'étais au conservatoire à l'époque et on nous avait fait étudier un quatuor à cornes, notre premier quatuor à cornes, et c'était La jeune fille et la mort de Schubert. Et je comprenais pas pourquoi on imposait ce sujet à des ados. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop grave. Et en fait, c'est une période de la vie, l'adolescence, pour moi en tout cas, où tout était vécu de manière très, très grave. Tout était très sérieux, sévère, tout avait une ampleur énorme. Ce que vous choisissez de faire en seconde, en première, en terminale, ça va décider de votre futur, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Et c'est les moments aussi où vous découvrez un petit peu ce qui vous anime, ce qui vous meut, vos passions. Donc... ouais, l'amour et la mort sont extrêmement présents. Ouais.
Vous avez de la nostalgie pour cette adolescence-là. On dit souvent que c'est l'âge ingrat, l'adolescence, mais ouais. D'autres disent que c'est aussi l'un des plus beaux âges et une belle période de la vie.
Non, j'ai aucune nostalgie. Vraiment pas. Non, je suis contente d'être loin de l'adolescence. Ouais. J'ai vécu des moments magnifiques, mais je suis contente d'avoir grandi et de ne plus avoir mes lunettes et mon appareil dentaire et mes problèmes d'acné.
Alors, Clou, quelle est la différence, puisque vous écrivez les deux, entre un poème et une chanson ?
Je pense que c'est extrêmement proche. La poésie et l'écriture de chansons, c'est comme deux sœurs. Je vois pas de grande différence. Je dirais qu'en poésie, il y a une liberté qui est énorme. On n'est pas contraint par la musique. Mais la liberté, ça ne veut pas dire que c'est la facilité non plus. Et en musique, on est contraint par le temps, on est contraint par certaines obligations de sonorité. La poésie, ça vous tend un peu les bras et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais la musique aussi. Hein. Mais j'ai trouvé en tout cas dans la poésie une liberté un peu plus grande et un peu plus souple, voilà, plus de souplesse.
Alors dans ce recueil, il y a vos poèmes, écrits donc l'an dernier, mais il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais votre première chanson.
C'est vrai.
Rosemary Lavache.
Vous pensez vraiment que j'ai pu inventer ça?
Mais elle se chante Rosemary Lavache, j'ai essayé de trouver quelque chose, pour... je ne chante pas très très bien, mais c'est inchantable.
C'est inchantable, non, c'est... Rosemary la vache était nouvelle dans son pré, experte de la mâche qu'elle ne faisait pas à moitié, pas à moitié, pas à moitié.
Ça change tout forcément. Ouais. J'aimerais, Clou, que vous nous lisiez un autre texte de ce recueil qui est donc une poésie et non pas une chanson, enfin en tout cas pour l'instant, qui ne dit mot.
Je ne dis mot pourtant, jamais évidemment, mon silence n'est un consentement. Il y a des mots dedans, pianissimo et lent, il y a des mots dedans, je ne dis mot pourtant. Il y a des cris latents, des faux amis, du sang, un ennemi rampant, sans un maudit pourtant. Sonne l'alarme, dedans, un vacarme croissant, qui coûte l'âme en sang, je ne dis mot pourtant. Je ne dis mot pourtant, jamais, évidemment, mon silence n'est un consentement. Hé. Hey.
Est-ce que vous pourriez la chanter?
Ça, je suis pas sûre que ça fasse une bonne chanson. Je pense que c'est
donc
vraiment
vous voyez
très
qu'il y a
triste.
De la différence.
Complètement.
Ah, ça,
et en même temps, je dis ça, il y a une chanson de Jeanne Chéral qui s'appelle Non Non, qui parle de ça, qui parle du consentement. Elle a réussi à en faire une chanson. Donc peut-être que c'est faisable. Peut-être que si Jeanne l'a fait, peut-être que je peux essayer de le faire.
Mais vous essayez là, pour nous?
Improviser là devant
oui,
vous?
Oui.
Non, ça c'est.
Non, mais je peux me mettre sous la table, me
c'est
cacher.
Vraiment... Ah, si vous vous mettez sous la table, peut-être.
Alors, je me mets sous la table. Vous êtes toute seule dans votre salle de bain, mais je
Mon
me
Dieu.
Mets vraiment sous la table parce que.
Il se met vraiment sous la table, donc je vais essayer. Je ne dis mot pourtant jamais, évidemment, mon silence n'est un consentement. Il y a des mots dedans, pianissimo et lent. Il y a des mots dedans, je ne dis mot pourtant. Ah, c'est. Faut en faire quelque chose d'un peu lumineux, parce que sinon. Vous n'êtes pas resté longtemps sous la table.
Oui, mais j'avais envie de vous entendre et de vous voir, et c'est assez magnifique. Alors, c'est vrai, quand vous disiez, il y a peu de différence entre la poésie et la chanson, c'est vrai que depuis Homère, les troubadours, si on pense aux griots africains aussi, la poésie est liée forcément au chant. Est-ce que ça a toujours été une évidence? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez aimé, jeune fille, à l'adolescence, des poètes-chanteurs, des chanteurs-poètes?
Oui, mon premier amour en musique, c'était Renaud. J'écoutais comme une dingue, j'avais le bandana à la frange. J'avais 6 ans, je crois, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Et je trouvais que c'était de la poésie, vraiment. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était récitable, comme ça, sans musique. Donc oui, et puis mes parents avaient mis dans ma chambre un recueil de poèmes de Boris Vian. Et je trouvais que c'était très musical. Et puis en fait, mon père m'a dit, mais c'est des chansons. Donc,
c'est normal.
Donc, c'est normal. Je savais pas. Donc,
Mais il y a aussi Brassens, Gainsbourg, ouais. Moustaki, Barbara. Alors, c'est pas votre génération, mais.
Ça l'est quand même.
Ça l'est quand même.
Ouais, c'était celle de mes parents. Et ils écoutaient vraiment énormément de musique. Et beaucoup Brassens et Moustaki, et Bobby Lapointe, et Barbara. Et puis plein d'autres personnes. Mais ouais, ça a toujours fait partie de ma vie, et oui, Brassens, c'est un grand poète aussi. Voilà, j'enfonce une porte déjà bien ouverte.
Bien ouverte, mais c'est des fois, c'est pas mal de répéter les choses. Mais donc, vous vouliez être une grande écrivaine. Ouais. Est-ce que vous pensiez à la musique un peu quand même, à cet âge-là? Puisque dans un de vos textes, vous dites que vous écrivez des notes de musique dans les marges des poèmes.
Oui, mais c'est drôle, j'y pensais pas. Pour moi, la musique... j'ai commencé la musique, j'avais 5 ans. J'avais un professeur particulier de piano. Et ça a tellement fait partie de ma vie depuis cet âge-là, que c'était un peu comme respirer, la musique. Et je n'envisageais pas ça comme un métier, j'envisageais ça comme faisant partie de ma vie. Donc écrire des chansons ou créer des mélodies, je ne peux pas dire autrement que ça coulait dans mes veines et c'était naturel, quoi. Alors que écrire, vraiment écrire, il fallait se mettre à sa table, sortir le stylo et penser à une histoire. Et ça, c'était autrement plus complexe.
Mais ça permettait de partir plus loin.
Sans aucun doute, oui, je pense. Enfin, en tout cas, l'exercice était de plus longue haleine. C'est vrai que la musique, bon, j'ai toujours trouvé que c'était un exercice génial, puisque c'est 3 minutes de chanson. Pas plus. Donc, on peut faire ça très très vite. Alors qu'un roman, essayer de le faire en 3 minutes, bah, bon, on peut parier que ça va pas être merveilleux.
Hein, on peut parier.
On peut.
Ce soir, je marche là sous la pluie. À pied, c'est fou comme je réfléchis. Sur le béton, cet océan gris. Navigue à vue ma mélancolie. Mais les orages ne durent jamais. Non, non, on passe toujours les saisons. Il y a du courage sur la ligne d'horizon. Il fera beau, j'en réponds. Il fera beau, j'en réponds. Soleil, soleil, c'est toi.
Soleil, clou, un soleil de clou, ça frappe fort aussi, c'est pas mal comme formule. La musique, c'est sérieux, disait votre père, donc quand même, il vous préfère musicienne, chanteuse que poète, non?
J'en ai aucune idée. Non, quand j'étais ado, mes parents me disaient qu'ils me voyaient avocate. Ils trouvaient que je parlais bien et que mon humour pouvait être utile pour défendre la cause d'innocents. Ou de coupable. Donc, non, il pensait que j'allais embrasser une carrière juridique, ce qui n'a pas été le cas.
Et puis, il y a donc maintenant la chanson et l'écriture et le dessin, puisque dans votre recueil « Doux maudit », il y a des illustrations noir et blanc à l'encre de Chine qui sont signées par vous, Clou. Alors, je ne sais pas trop décrire les dessins, mais pour qui connaît Marjane Satrapi, l'autrice de bande dessinée, ça m'a fait penser un peu à elle.
D'accord.
Non,
bah, c'est flatteur, c'est extrêmement flatteur. Ben moi, j'ai envie de vous dire oui, là.
D'accord. Et c'est sérieux, le dessin?
Non, c'est pas sérieux non plus. Mais c'est marrant parce que j'ai pas de formation académique en dessin du tout. Et donc, au départ, quand j'ai commencé à illustrer ce recueil de poèmes, je me sentais pas très légitime. Donc, j'ai commencé à en faire beaucoup. Et à me dire, bon, plus je vais en faire, peut-être que dans la tonne de dessins, il y en aura quelques-uns qui seront bien. Et c'est comme en musique. Je crois qu'on n'a pas besoin de formation particulière. Plus on fait, meilleur on est. Voilà.
C'est vrai pour l'écriture aussi?
J'espère.
Est-ce que vous avez sur vous, là, aujourd'hui, un carnet et un stylo? Parce que j'ai l'impression que la musique qui s'écrit, les poèmes qui s'écrivent, le dessin, vous devez passer votre vie avec un carnet et un stylo.
C'est drôle, parce que j'ai failli le prendre, mais à la place, j'ai pris une cafetière.
Pardon?
Parce que je dois apporter une cafetière à un ami tout à l'heure. Et donc j'ai choisi entre le carnet et la cafetière. J'ai pris la cafetière.
Bon, pourquoi
l'amitié
pas.
Avant le travail.
Merci beaucoup, Clou. Doux maudit, ce voyage au cœur de mon adolescence, selon le sous-titre, est édité chez Rajot. Merci encore, j'aurais pu vous proposer un café. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.